Et là-dessus, on va joindre Alexandre Beaupré-Lavallée, professeur en administration de l'éducation à l'Université de Montréal. Bonjour Alexandre.
Bonjour Hélène, comment allez-vous?
Ça va, ça va. Vous de même?
Ça va très bien. Écoutez, il est 10h30. Je suis un peu... Pas pris de cours parce que j'étais au courant qu'on allait le faire. Mais lorsque le téléphone a sonné tout à l'heure, je me suis dit, mon Dieu, il n'est pas encore 11h. Ah, c'est vrai, c'est une journée spéciale aujourd'hui. J'ai une question pour vous, Hélène. Est-ce que vous avez voté?
Ah, certainement.
Excellent. Lorsque vous avez voté, vous avez tenu compte ou vous avez pensé à des enjeux d'éducation qui ont lieu dans cette campagne électorale?
Oui, mais je trouve qu'on n'a pas entendu parler tellement d'éducation, Alexandre. Comme vous le disiez si bien en début de campagne, là, ou après une semaine ou deux, là, on n'avait pas parlé beaucoup d'éducation. Puis finalement, bon, ça il en a été amélioré. Question dans les débats, mais pas beaucoup.
C'est une des campagnes... Je suis à la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Je regarde une petite gêne. J'ai quand même vu pas mal de campagnes électorales québécoises. C'est la campagne d'élection provinciale la plus décevante en matière d'éducation qu'il m'ait été donné de voir. Je sais qu'à cinq partis, il y a une espèce de consensus sur les problèmes d'éducation. Et là, on est rendu plus à qui va les régler et comment, si vous remarquez, à part Québec solidaire qui a parlé de la gratuité, qui dans son programme, qui n'en a même pas parlé, qui dans son programme a la gratuité au poste secondaire, tous les autres partis s'entendent sur plus d'enseignants, accélérer les rénovations et la construction d'écoles, et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et c'est comme professeur à l'université, c'est frustrant parce que j'ai des étudiantes dans un cours de première année, première session, qui rentre deuxième année, première session, mais qui est un cours de base qui s'appelle système éducatif et profession enseignante. Et c'est ce qui est intéressant lorsque je donne ce cours en même temps que des élections, c'est arrivé quand même quelques fois depuis que je le donne, c'est qu'il y a toujours un enjeu qui ressort, dont on est capable de discuter, et cette fois-ci, c'est le désert. Ce qui fait qu'aujourd'hui...
Et pourtant, c'est pas parce que c'est le paradis que tout va bien, Madame la Marquise.
Non. Et une des belles démonstrations que ce n'est pas le paradis, c'est une chronique qu'a publiée Normand Baillargeon dans Le Devoir, le 24 septembre dernier.
Toujours d'actualité, hein?
C'est toujours d'actualité, qui s'appelle « Péril dans l'école » et où Normand Baillargeon revient sur l'état de la profession enseignante et à quel point ça pose problème. Maintenant, j'avais préparé cette chronique-là pour la semaine dernière et c'est bien qu'il y ait eu une semaine entre les deux parce que au départ, je voulais revenir sur certaines affirmations de Normand Baillargeon, comme quoi il y a un taux d'abandon de 40 à 50 % dans les bacs en formation initiale, au préscolaire primaire notamment, et qu'il y avait un taux de désertion professionnelle, ce qu'on appelle un taux de décrochage professionnel, allant de 30 à 50 alors que d'habitude c'est 20 %. Et après ça, il y avait des questions qui étaient posées sur la façon dont les enseignants sont formés, dont les facultés d'éducation font le travail, etc., etc. Et pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur un paragraphe parce que je vais être obligé d'être d'accord avec la majorité de ce que dit Normand Baillargeon. Mmh. Même sur la question des taux d'abandon, il dit que selon des études récentes, mais ça reste à confirmer pour l'ensemble des universités et des régions, depuis la semaine dernière, j'ai eu la chance de parler aux auteurs, de trouver qui étaient les auteurs de ces études et d'en parler. Et effectivement, on est en train de mettre à jour certaines statistiques. Le problème, c'est que lorsqu'on parle, par exemple, d'un taux de désertion professionnelle de 30 à 50 comme on n'a pas un système national, une banque de données nationale sur chaque enseignant individuel, mais qu'on a plutôt des bases de données, un par centre de service scolaire, qu'ensuite on consolide, ben ça crée le problème que lorsqu'un enseignant passe, par exemple, d'une commission scolaire X, déménage dans une commission scolaire Y, la commission scolaire X considère que cette personne-là est perdue. Et dans le 30 à 50 on ne fait pas la somme, on ne fait pas la différence entre, par exemple, combien de gens le centre de service scolaire de Laval a perdu versus combien de gens le centre de service scolaire de Pointe-de-l'Île a gagné. Mm-hmm. Parce que ce ne sont pas, on connaît pas la nature des départs, on connaît pas la nature des arrivées. Bon, le texte de Normand Baillargeon pourrait servir de preuve de gros arguments sur pourquoi est-ce que ça nous prend des meilleures données pour gérer la pénurie, mais ça, c'est autre chose. Je veux parler de quelque chose qui aurait dû faire l'objet d'une discussion électorale, et c'est l'organisation de la formation des enseignants. Parce que dans les dernières années, on a eu deux grands en guillemets, scandale, là, deux grandes affaires. La première, c'est la question récurrente de la performance ou de la compétence des enseignants à l'égard de la langue d'enseignement, le français, qui revient toujours et qui aurait matière. Il y aurait en tout cas matière à mieux expliquer ce que ça veut dire. Et la deuxième, et c'est là-dessus que Normand Baillargeon insiste, c'est qu'il demande, et je vais le citer, les facultés d'éducation font-elles correctement leur travail, en particulier à l'aune des données probantes qui doivent être enseignées? Avaient-elles prévu cette pénurie comme on devrait s'attendre à ce qu'elles l'aient fait? Comment y ont-elles réagi? Que valent les mesures à leur mise en place? Et ce ne sont pas de mauvaises questions, mais contrairement à ce que Normand Baillargeon suggère, on a les réponses à ces questions-là. Les facultés font-elles correctement leur travail? C'est discutable. En particulier, si on évalue à l'aune des données probantes qui doivent être enseignées, je veux pas être plate, mais la question des données probantes, c'est-à-dire d'enseigner selon les méthodes efficaces qui sont issues de la recherche, là, cette question de méthode efficace, elle ne fait pas consensus, premièrement. Mmh. Et deuxièmement, ça ne fait pas assez longtemps que c'est émergé dans le discours pour que, il dit, à l'aune des données probantes qui doivent être enseignées, selon qui? Le contenu des programmes est normalisé par un organisme qui s'appelle le comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement, qui est comme un ordre professionnel, mais juste pour les programmes de formation des maîtres. Et il n'y a aucune mention de ça nulle part. Donc, évaluer le travail des facultés d'éducation en utilisant comme objectif qu'elles auraient dû faire quelque chose que personne ne leur a jamais demandé faire, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Est-ce que les facultés avaient prévu cette pénurie? Oui, ça fait 15 ans que tout le monde lève la main dans toutes les facultés. En tout cas, tous les gens de l'administration de l'éducation, on s'entend tous, on a tous levé la main pour dire, faites attention, si on prend les cours démographiques, si on prend les cours démographiques...
Ils vont manquer de monde.
On va manquer de monde dans telle région. Rendu là, si le ministère n'écoute pas, c'est pas vraiment de la faute des facultés. Comment y ont-elles réagi? Elles ont demandé à ce qu'on admette plus d'étudiants, et ça, on a commencé à demander ça en 2008, 2009, 2010. En 2008-2009, l'Université de Montréal a commencé à faire des démarches pour la maîtrise qualifiante, c'est-à-dire pour permettre de donner accès aux enseignants des gens qui ont un bac disciplinaire et qui puissent s'y rendre en 2 ans plutôt qu'en 4 ans. Ça a été la croix et la bannière, notamment de la part du ministère de l'Éducation, mais aussi de plusieurs autres universités, ce qui fait que ces maîtrises-là, qui sont aujourd'hui un succès fou auprès d'une population à qui on demandait... Imaginez avant, on demandait à une étudiante qui a, mettons, un baccalauréat en linguistique ou qui a un baccalauréat en langue espagnole ou en anglais, on lui demandait de refaire les 4 ans de bac. Alors,
un peu décourageant.
Ben c'est ça, c'est décourageant, surtout qu'elle a déjà la moitié du contenu du bac de déjà fait, le contenu disciplinaire. Et que valent les mesures qui ont été mises en place? Ben, très peu de mesures ont été mises en place parce que ça prend l'autorisation du ministère pour faire quoi que ce soit dans une faculté d'éducation. Alors, je veux bien qu'on casse du sucre sur le dos des facultés d'éducation. C'est facile, je le fais moi aussi de l'intérieur, tout le monde le fait. Mais encore faut-il, c'est pas une théorie de conspiration. Il n'y a pas lieu de poser des questions auxquelles on a des réponses, à moins que M. Baillargeon, pour qui j'ai le plus grand des respects, n'ait pas la réponse à ces questions-là, point auquel j'aurais tendance à lui dire, ben, tapez les questions dans Google, parce que c'est le deuxième résultat qui sort systématiquement.
Mais là, on attend votre lettre de réponse à M. Baillargeon, pardon, dans Le Devoir prochainement. Alexandre?
Non, je vais vous dire honnêtement, la prochaine lettre que je vais réussir à faire passer, ça va être celle sur l'analphabétisme, parce que tout le monde reprend la statistique de la Fondation pour l'alphabétisation qui dit 46,4% des Québécois sont analphabètes. Le problème, c'est que chaque lettre ouverte que j'envoie qui dénonce ça reste sans réponse.
Lettre morte. On vous croit pas ou quoi?
Ben, ça ne vend pas autant de copies de dire, d'expliquer pourquoi est-ce que ce PISA ne dit pas que 46,4% des Québécois sont analphabètes fonctionnels. Il y a ça nulle part, mais ça ne vend pas de la copie de nuancer, vous comprenez? Mais c'est correct, je veux dire, j'en veux absolument à personne. J'ai l'émission aujourd'hui, j'ai des entrevues dans les médias lorsqu'on me pose la question. Sinon, ben écoutez, on fait avancer ça une chronique à la fois. Surtout que présentement, il y a tellement d'autres préoccupations en éducation. Je suis content, heureux, comblé que pour une fois, les deux enjeux qui ont pris le devant de la scène, c'est la condition de la profession enseignante et l'état des immeubles. Pour une fois qu'on parle de ça sérieusement, que tout le monde s'entend là-dessus, maintenant, une fois, demain matin, on verra que le parti au pouvoir va décider de faire, mais pour une fois que tout le monde s'entend là-dessus, ce serait le fun de continuer sur ce consensus-là et de régler ces deux problèmes-là qui sont des problèmes qui sont à la base de presque tous les autres problèmes qu'on a.
Alexandre Beaupré-Lavallée, bonne journée. N'oubliez pas d'aller voter, hein?
Je suis allé voter, première affaire en me levant ce matin.
Parfait, votre devoir de citoyen est fait. Merci beaucoup, puis on se retrouve dans 2 semaines, puisque lundi prochain, c'est congé.
On se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup, Hélène.
Merci à vous.
Au revoir.